Ces trois choses-là sont identiques. Mais lorsqu'elles sont chacune exclusives des autres, elles se dénaturent. Et elles rentrent en conflit. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a qu'une seule perspective de retrouver le véhicule du Hegel et Locke, c'est l'unification de ces trois dimensions. Je vais essayer un peu d'identifier cela. Vous avez des institutions qui ne s'occupent que du peuple. Ça ne veut pas dire qu'elles ne savent pas que la Torah existe ou que la Terre existe, mais ce n'est pas leur problème. Nous, on s'occupe du peuple, le Congrès juif mondial. Bien, Torah, allez voir le consistoire. Eretz Israël, 17 rue Fortuny. Comme ça, vous connaissez la presse. Bon. Mais vous voyez ce qui se passe. Et alors, parfois on trouve que les mêmes hommes sont dans les autres institutions. Mais entre-temps, ils ont changé de kippa, ce n'est pas le même chapeau juif. Et ainsi, vous avez des institutions qui s'occupent que de Torah. Torah, d'accord. Le peuple, allez voir le CJM. La terre, allez voir, etc. Vous en avez qui sont la terre, que la terre. Torah, on a entendu parler. Allez voir mes acharis. Le peuple, CJM. Bon, j'ai un peu schématisé, mais vous comprenez quel est le problème. Or, nous avons, ça va jusque-là. Il y a donc là une note du Ben Yishraï qui est extraordinaire. Quand Jacob revient de l'exil, il faut qu'il fasse deux preuves. Il faut qu'il s'identifie comme homme de la terre au nom de la Torah. Alors il reçoit le nom d'Israël. Mais vous allez me dire, au temps de la famille d'Abraham, Isaac, Jacob, au temps de l'histoire de famille, il n'y avait pas encore ces dimensions dévoilées dans l'histoire. Hein? Mais c'est pourquoi Rashi nous montre qu'elles sont en préfiguration. Quelqu'un a un livre de Bréchit que je vous donne la référence? Vous avez... Oui, s'il vous plaît. Comme ça, je vous donne la référence exacte, c'est le premier verset de la paracha de Vaishlach. Ken?
Vous avez lu le Coran en entier?
Non.
Attendez,
répétez. Oui. Un chapitre
sur les juifs en termes d'orduriers.
Oui. Ah oui, ça je connais. Oui. Ah oui, ça je connais, oui.
Mais
orduriers
comme jeune, oui. On voit difficilement des pailles.
Oui. Alors voilà ce qui se passe. Je voudrais vous donner cette citation rapidement. Lorsque Jacob revient de l'exil de Laban, il envoie des envoyés, des émissaires à Esaü, et il les charge de dire ceci. Aïn Laban garti vaechar adata. Je vous mets le tableau. Ça veut dire, j'ai séjourné chez Laban, une Laban garti, j'ai séjourné chez Laban, vaechar adrata, et j'ai tardé jusqu'à présent. C'était passé 20 ans, et puis Jacob revient, tente la réconciliation avec Esaü, lui envoie des émissaires pour lui faire dire qu'il revient, qu'il espère bien rencontrer son frère, et on va peut-être parler et s'arranger. Entre-temps, les émissaires vont revenir pour dire, ton frère t'attend, avec 400 hommes de guerre, la Ligue arabe. Hein? Et alors, alors qu'il revenait de son exil. Hein? Alors, le début du message, c'est ça. Im Laban garti vaechar adat. J'ai séjourné chez Laban et j'ai tardé jusqu'à présent. Par exemple, pour raconter une petite anecdote. Une quinzaine d'années, j'avais eu une soirée chez le maire de Natania, qui s'appelait Ben Ami à l'époque. Je ne sais pas si c'est le même maire aujourd'hui.
Non, c'est le même.
Et alors, il était chargé, au début du siècle, par le KKL, d'acheter toute la bande de terrain qui va de Naharia à Ashkelon. Et c'était des terrains sablonneux qui en principe ne valaient rien. Et les Arabes qui vendaient ces terrains demandaient un prix exorbitant. Alors un jour, il s'assoit avec les chers Arabes et il leur dit, mais écoutez, vous savez très bien que cette terre nous appartient, seulement on était loin pendant très longtemps, pourquoi on revient, on vous l'achète, et vous faites payer si cher. Et les Arabes lui ont répondu, je vous cite Ben Ami, on sait très bien que c'est à vous. Mais il faut que vous nous payiez le gardiennage. Et c'est très juste. Bon, mais au moins le payer au prix du sable, pas au prix de Ashkelon reconstruit. Et alors là, il y a cela. Et puis, corollairement, ce fait que lorsque ces juifs sont revenus si tard, si longtemps après, et qu'ils ont trouvé les occupants, hein, les seuls qui pouvaient avoir un dossier plaidable, Ishmael et pas Esav, hein, ils n'étaient pas du tout sûrs que c'était Jacob qui revenait. Ils ont vu partir des juifs à papillotes, si j'ose dire, enfin, des juifs de la Torah, et ils voient revenir des juifs de la terre, des chalitzim en culottes courtes et dansant la hora. Hein. Ils n'étaient pas sûrs que c'était vraiment Jacob. Vous venez compris l'histoire. Alors voilà, les deux choses sont vraies. Alors là, tout ceci est préfiguré dans Rashi que je vais vous lire. Alors d'abord la référence. Voilà, c'est le chapitre 32 de la Genèse, verset 5. Voilà le commencement du message. J'ai séjourné chez Laban et j'ai tardé jusqu'après. Rashi nous dit ceci. Garti, le mot de Garti a comme valeur numérique Garti, mais en plus grand. Garti, ça veut dire j'ai séjourné. La gour a comme valeur numérique 613. 613, c'est Tariag. C'est le nombre des 613 commandements de la Torah. En disant, j'ai séjourné chez Laban, il fait une allusion à la Torah. Ça veut dire, bien que j'ai séjourné chez Laban, je n'ai pas abandonné la Torah. Okay. Vous avez suivi? Il Laban Garti, Begamatratar. Il y a quel Omar? Il Laban, Arachar Garti, chez Laban, le méchant, j'ai séjourné, Vetariag Mizrot, Shamar. Et pourtant, j'ai observé, non, c'est pas observé, j'ai préservé, j'ai gardé, ça marque les. Ça m'a fait une blague dans les milieux orthodoxes, il y a des gens qui observent les mitzvot, mais de loin. J'ai observé les mitzvot. Vélo la matinée, m'a assar à rachat, et je n'ai pas appris de sa conduite mauvaise. Première justification d'identité, hein? C'est-à-dire, c'est Jacob qui parle, l'homme du peuple. L'homme du peuple d'Israël. Jacob, c'est le principe du peuple. Hein? Et il dit, mais j'ai séjourné chez Laban. Et ça veut dire, c'est la preuve que j'ai gardé la Torah. Parce que séjourner chez Laban et revenir, c'est que j'ai la Torah sous le bras. Parce que c'est ça qui est arrivé dans l'histoire. Imaginez que les Juifs ont traversé 2000 ans de civilisation chrétienne et sont revenus avec un chumash rashi sous le bras. Hein? C'est ça que ça veut dire. Il n'a pas une partie, et pourtant, t'as réuni d'autres, ça marche. On aurait pu se perdre complètement en route. Et parce qu'à chaque carrefour, il y avait l'option Bergson. Par exemple. Mais Rashi ne s'arrête pas. Vous voyez donc là, dans ce garti, il y a allusion, hein, j'ai effacé, à Moïse. Et puis, Rashi ne s'arrête pas, il continue en disant. Non, c'était la première explication, et pas la deuxième, et ça revient au même. L'on a assisti. Sar vechashu. Et ça veut dire garti, j'ai séjourné, j'étais comme un guerre, comme un étranger. Okay? Il a dit, je ne suis pas rentré au gouvernement de chez Laban. L'ona asti sar vechashu. Je ne suis pas devenu prince et important, ministre. Okay? Et la guerre, mais je suis resté métek, guerre, étranger. Et vous voyez, ça c'est la justification par rapport à la terre. Voilà, Rashi, avec l'air de rien, nous dit, Jacob se prépare à recevoir le nom d'Israël. Il a deux preuves à faire, par Moïse et par David. Alors il est nommé. Mais, vous voyez, l'ordre, c'est d'abord Jacob, par David, c'est la terre d'Israël. C'est David qui a assuré la souveraineté d'Israël sur la terre de Canaan.
Oui, mais là, il y a un verset chronologique, non ?
Qu'est-ce que vous allez me plaider pour les Netore Carta, hein?
Non, mais vous parlez d'un ordre. D'abord, il y a Jacob, Moshe et David.
D'accord. Et étudiez bien ce que dit Moïse. Il ne parle que de ça. Il ne parle que de David. Et je vous ai répondu par ellipse. Okay? Qu'est-ce que dit Moïse? Et voilà la Torah que vous devez pratiquer en Eretz Israël. Super. Alors, à la rigueur, j'accepterai le fait qu'il fallait passer au Sinaï pour recevoir un Sefer Torah. Pas plus. Et l'ordre important, c'est d'abord le peuple. Et c'est les trois dimensions du Enyanayoki. Et alors attention, attendez, je voulais parler d'autre chose, mais ça m'a un peu échappé. Non, je me souviens de ce que nous disait Monsieur Gordin à ce propos. La balle en hébreu, ça veut dire blanc. Bien? C'est le passage par la civilisation blanche. Et il disait, c'est pas tellement blanc que ça, celui-là. Bien? Bon, et là, la balle, c'est le Liban, étymologique. Le Liban, c'est le pays de la balle. Aucun rapport avec les événements actuels, ça fait 2000 ans que ça dure. Est-ce qu'il y a donc une question là-dessus, non ?
Pas directement là-dessus, mais sur le Kuzari. C'est la première fois que je lis le Kuzari par un intermédiaire. Je trouve que l'hébreu est compréhensible si on possède un petit peu de rudiment. Ça a été traduit quand ?
Au Moyen-Âge.
C'est une clarté, je trouve, l'idée de lire tout à fait.
Bah, très bien. Il faut féliciter le traducteur qui s'appelait Imtibon. En arabe. Je vous dis, je vais demander à Michel Prince les graphies, c'est le 13e siècle. C'est-à-dire, voilà, Judas Lévi est un peu antérieur à Maïmonide. Ouais.
Et la poésie est écrite aussi en arabe et traduite.
Ah non. Les poésies, oui, et aussi celles de Maïmonide, ont été écrites d'emblée en hébreu, mais avec des règles de prosodie, on appelle ça des règles de prosodie de la poétique arabe. Et c'est une très belle poésie, la poésie hébraïque du Moyen-Âge. C'est
difficile de la compréhension.
C'est plus difficile à comprendre. Ouais. Si vous voulez, ça vaudrait la peine qu'un jour on ait un séminaire sur des poèmes de Judas Lévi. Ou de Gubirol, ou de Maïmonide, ou de... Oui, la terre, Lébanon, s'appelle du nom de la base. Mais c'est cette contrée-là, c'est toute cette contrée qu'on appelle la Mésopotamie. Aram, Naharaï. C'est l'Irak, la Syrie, le Liban, tout ça. Bien. Alors, on se revoit dimanche matin à 10h30. Je serai seul.